l'initiative locale avec Charles Duplessis sur Radio Alpa.
Avec 389 cas pour 100 000 habitants, la France est le pays ayant la plus grande incidence de cancer au monde. Un nombre record qui s'explique en grande partie par l'exposition de substances actives que nous assimilons via notre environnement et notre alimentation. Résidus de pesticides, PFAS, perturbateurs endocriniens. Un récent rapport de l'ANSES a notamment dévoilé l'ampleur de l'imprégnation de cadmium par les Français. Près de la moitié de la population adulte dépasse les valeurs toxiques psychologique de référence concernant ce métal lourd, une contamination qui s'explique essentiellement par notre alimentation courante, pain, pâtes, riz ou encore pommes de terre, tandis qu'une autre étude récente montre la forte association entre les pesticides et le surrisque de cancer sur tout le territoire du Pérou. Ces produits font grimper jusqu'à 840% le risque de cancer. L'association Santé Environnementale Mancel alerte sur ces enjeux de santé publique et parmi ses différentes actions de sensibilisation, elle porte le projet des ordonnances vertes pour guider les femmes enceintes vers une alimentation plus saine. On déblaye un peu tout ce sujet-là avec Fanny Blin de l'association Santé Environnementale Mancel. Bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, clarifions bien la situation parce que les chiffres que j'ai évoqués en introduction, ils sont véritablement inquiétants. À quel point la situation est-elle grave concernant notre alimentation? À quel point est-ce qu'il faut s'alarmer en fait?
Effectivement, il faut s'alarmer, notamment sur toute cette période de vulnérabilité pendant le temps de la grossesse, la petite enfance et l'adolescence où les corps humains sont prédisposés, on va dire, à accumuler plus facilement toutes ces pollutions toxiques qui viennent des pollutions chimiques, à la fois, comme tu disais, de l'alimentation, mais aussi de tout notre environnement, de l'air, bien sûr de l'eau et des sols.
Et l'année dernière, l'ANSES révélait par exemple l'ampleur des contaminations au PFAS, cette année celle du cadmium. Est-ce que le monde scientifique ne découvre que depuis récemment la dangerosité des produits que nous consommons?
Non, bien sûr. Alors, la recherche n'est pas. Les fonds pour la recherche ne sont pas forcément dirigés pour mettre en lumière cette pollution. C'est toujours le problème des investissements vers les volontés politiques d'emmener le fléchage budgétaire vers la recherche scientifique. Mais le consensus y est tout de même.
Le danger auquel on pense immédiatement quand on parle de ces substances, c'est le cancer. Est-ce que ces contaminations peuvent entraîner d'autres conséquences sur la santé, pas seulement des cancers en fait?
Bien sûr. En fait, puisqu'on parlait des pesticides, certains pesticides sont perturbateurs endocriniens, mais au même titre que des molécules chimiques qu'on retrouve dans les cosmétiques, dans les peintures.
Le sénateur Laurent Duplomb a déposé une deuxième proposition de loi pour réintroduire certains néonicotinoïdes, notamment l'acétamipride, dans l'agriculture, mesure qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel dans la précédente loi Duplomb. Mais là encore récemment, Gérard Larcher et Laurent Duplomb réclament l'insertion de cette loi Duplomb 2 dans la prochaine loi d'urgence agricole. Ça représenterait un vrai danger pour la santé humaine selon votre association?
Évidemment. Évidemment, comme je répète, le consensus scientifique, l'ordre des médecins, bon nombre d'organisations, d'ONG s'élèvent contre cette nouvelle loi sous prétexte d'aider les agriculteurs. Encore ce matin, sur une radio concurrente, Arnaud Rousseau défend ce modèle agricole délétère.
Et donc ce qu'on entend dans votre parole, c'est qu'il y a un consensus scientifique sur ce danger, mais qui serait insuffisamment pris en compte, du coup.
Clairement. Alors, sous prétexte de souveraineté alimentaire, on nous fait accepter de l'alimentation qui n'est pas ni saine ni durable. Il y a toujours une bonne parole où on nous dit qu'on essaye de faire mieux, mais par rapport, par exemple, au cadmium, ce taux qui dépasse la norme, c'est pas nouveau, c'était déjà connu.
Alors ceci dit, devant l'ampleur du phénomène et la multiplicité des facteurs, la question qui se pose quand même, c'est comment agir concrètement? Parce que ne serait-ce que pour le cadmium, par exemple, l'ANSES nous dit que même l'agriculture biologique ne suffit pas à éviter l'exposition à ce métal lourd. Donc qu'est-ce que vous appelez à mettre en place, soit au niveau des associations, soit de la part des pouvoirs publics?
Alors déjà, il faudrait remettre les choses au point. L'agriculture biologique ne transmet pas, ne met pas autant de cadmium dans les sols que l'agriculture conventionnelle. on est apparemment à 50% au moins de cadmium en moins dans les sols, beaucoup moins d'utilisation d'engrais dans l'agriculture biologique. L'apport nutritionnel des éléments qui sont produits est toujours supérieur à l'agriculture conventionnelle. Ce que je voulais rajouter, c'est que vraiment, il faut que la population soit sensibilisée à cet aspect de perturbateur endocrinien. Et vraiment, j'insiste, nous, ASEM, c'est par rapport aux enfants, pour les perturbations à venir, parce que c'est pendant le temps de la grossesse, voire même en préconceptionnel, qu'il faut se protéger. Et toute cette politique de prévention en santé publique est primordiale pour les générations à venir.
Mais du coup, ce qu'il faudrait faire au niveau de l'agriculture en France, ce serait la production biologique principalement ?
Changer de modèle agricole, bien sûr. On sait, le consensus à nouveau, on sait que l'agroécologie peut fournir la nourriture et le niveau d'alimentation nécessaire.
Parce que ça, c'est au niveau de la production. Il y a aussi une problématique au niveau de la consommation. Par exemple, l'Union européenne a récemment passé un accord avec le Mercosur pour faire venir des produits alimentaires à moindre coût, mais qui ne respectent pas les normes européennes en matière de traitement. Mais voilà, il y a des conséquences concrètes sur le prix de ces aliments, et les consommateurs sont peut-être amenés du coup à payer moins cher des aliments qui sont peut-être plus dangereux. Donc il y a aussi un choix à faire au niveau consommation.
Clairement. Et tout ce qu'on dit aussi sur le pouvoir d'achat et sur le fait d'acheter moins cher, ça gomme tout le coût caché de cette alimentation. Toutes les externalités négatives, ben notamment de santé, le coût de la santé que cela entraîne.
D'accord, donc le coût qu'on ne paye pas sur l'alimentation, on va le payer en santé plus tard.
C'est ça. Et en plus, ça retombe toujours sur les plus précaires, puisque c'est eux qui ont l'accès à l'alimentation la moins nutritionnellement viable.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une responsabilité des consommateurs qui doivent accepter de payer un peu plus cher la nourriture
Bien sûr que non. On ne doit pas faire payer le prix et remettre tout cet impact sur les gens qui n'ont pas de moyens. C'est de la volonté politique, bien sûr que non.
Donc en tout cas, à l'échelle de votre association, vous organisez différentes actions de sensibilisation, vous en avez parlé. Votre action, elle porte essentiellement sur le territoire mansois et sartois. Est-ce qu'en tant que département rural, la Sarthe est plus particulièrement exposée à la contamination aux perturbateurs endocriniens ?
Alors en fait, c'est parce que nous sommes des professionnels de santé essentiellement du Mans. L'idée est de démarcher toutes les villes sartoises et mancelles, bien sûr, mais de la métropole. Ce que je voulais redire tout à l'heure là sur aussi les coûts cachés, c'est aussi la part de l'agroalimentaire qui marche beaucoup sur les produits de l'agriculture biologique et du coup qui font penser que cette agriculture et la production et les transformateurs en agriculture biologique sont beaucoup plus chers. Mais il y a une marge de l'agroalimentaire qui fait que c'est aussi très compliqué. Et dans des circuits courts, on peut avoir un panier de fruits et légumes bio pour un coût raisonnable.
Et donc ce serait possible de se nourrir mieux et de se nourrir, mais pas forcément beaucoup plus cher, quoi.
Exactement.
Alors vous portez l'association Sainte Environnemental Mansel porte le projet Ordonnance Verte. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ?
Donc effectivement, les effets délétères des pollutions chimiques et notamment des perturbateurs endocriniens que sont les pesticides sont à essayer de limiter durant la période fœtale. Donc l'association Alerte Médecins contre les pesticides et les perturbateurs endocriniens que nous avons rencontré à l'occasion d'un premier événement de l'association. Enfin non, là c'est le collectif Santé et Pesticides Sartois qui réunit 18 associations de la Sarthe.
Dont Santé Environnemental Mansel.
Voilà, c'est ça. Et nous avons rencontré à cette occasion Dr Perrineau, qui est donc de AMLP, Alerte Médecins contre les Pesticides, qui portait ce projet. Et moi, en tant qu'orthophoniste, inquiète de la recrudescence des troubles de neurodéveloppement, j'ai trouvé que c'était une action super pour vraiment avoir un impact direct. Donc il s'agit de la fourniture d'un panier de fruits et légumes issus de l'agriculture biologique sur le temps de la grossesse, sur prescription médicale au moment de la déclaration de grossesse ou au plus tôt de la grossesse possible, la fourniture donc de ce panier gratuitement financé par les collectivités locales, ça peut être aussi des CPTS dans certaines villes françaises. Dans ce dispositif, quand une femme accepte de recevoir gratuitement ce panier, il y a une contrepartie, c'est qu'elle doit participer à un atelier de sensibilisation justement sur les perturbateurs endocriniens.
Et donc vous avez dit ces ordonnances, elles sont établies par les professionnels de santé.
Voilà, l'idée c'est vraiment qu'au départ, la sage-femme, souvent le gynécologue, là où la femme fait sa déclaration de grossesse, indique le chemin à construire pour changer son alimentation.
Mais du coup, c'est sur la bonne volonté du professionnel de santé, finalement.
Ah, il faut que les professionnels de santé, bien sûr, soient sensibilisés.
Et
c'est aussi notre travail à SEM, c'est à faire notre travail. Voilà. En fait, on aimerait avoir deux jambes, avoir cette sensibilisation vers les citoyens, mais aussi vers le monde médical, puisque tout ce domaine de la santé environnementale est en plein essor et l'impact de notre environnement sur notre santé n'est vraiment pas encore pris en compte à la mesure de ce que ça devrait être. Et justement, dans les facultés de médecine, c'est vraiment encore le béaba. Donc, il faut aussi rattraper ce retard de sensibilisation dans le monde médical.
Et au-delà des médecins, pour mettre en place tout ce système d'ordonnance verte, du coup, il faut aussi travailler avec les élus locaux, des associations, les producteurs locaux aussi.
Et voilà, il y a beaucoup de démarches à faire, puisqu'il y a toute cette partie donc, professionnelle, la partie des producteurs qui peuvent fournir et toute l'année un panier qui soit gérable par une famille pour nourrir à la fois la maman mais aussi le reste de la famille, et puis toute cette partie souvent des puéricultrices ou des sages-femmes ou des animatrices qu'on appelle nesting, qui donc sont des ateliers pour se sensibiliser aux perturbateurs endocriniens comme ceux qui sont contenus dans les cosmétiques ou dans les peintures, dans les moquettes, voilà, pour accueillir au mieux le bébé. Ces ateliers existent déjà en fait dans les maternités, mais peu de femmes y ont accès par manque d'informations, on va dire. Ou alors, ce qui se passe, c'est qu'elles y vont, mais à la fin de leur grossesse, quand elles sont sur leur temps de congé, alors qu'en fait, ça apparaît beaucoup trop tard, puisque comme je le disais, ce site doit apparaître vraiment soit en préconceptionnel, soit au plus tôt au moment de la conception du bébé in utero.
Et alors, est-ce qu'il y a des mairies déjà qui se sont montrées enthousiastes sur ce projet qui...
Alors, la mairie de Strasbourg fonctionne depuis 3 ou 4 ans et a déjà vraiment des retombées. Il y a 30% des femmes qui ont vraiment participé sur toute la ville de Strasbourg et qui ont eu un vrai changement de pratique alimentaire.
Et en Sarthe, par exemple
Alors, pour l'instant, en Sarthe, notre démarche a été vers la ville du Mans, qui n'a pas souhaité, pour le moment, encourager ce dispositif. Et nous sommes là, en démarche avec M. Gilles Le Proust à Alonne, qui va... très prochainement mettre en place le dispositif, parce qu'il y a tous les éléments qui vont se mettre en route. Et puis, Monsieur Christophe Rouillon aussi, que nous rencontrons très prochainement sur Coulaines.
Vous organisez un cycle de projection de films tous les 28 du mois. Donc, le 28 mars, c'était sur l'empoisonnement des Antillais au chlordécone. Et donc, les prochains rendez-vous, ce sera le 28 avril, avec un film sur les microplastiques. Et le 28 mai, vous projetterez un documentaire « On aura des bonnes santé » d'Anna Jo Choum, je ne sais pas si je prononce correctement son nom. Ces projections, elles se font toujours avec des intervenants pour pouvoir informer, échanger avec le public.
Voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est de poser le débat en amont avec souvent des films qui résument les problématiques. Donc Homo Plasticus, on entend dans le titre de quoi il s'agit, donc les fameux MNP, les macro et nano plastiques qui envahissent aussi nos corps. On a la chance au Mans d'avoir une chercheuse dans ces microplastiques et sur la dégradation des microplastiques, donc Fabienne Lagarde qui pourrait être en présentiel. Ensuite, on aura la Élodie Bonne qui est la réalisatrice du film en visio, et aussi Tania Patchev qui est biochimiste et porte-parole de l'association Cantine sans plastique, puisque parmi les perturbateurs endocriniens, on sait que quand on réchauffe un contenant en plastique, les microplastiques migrent dans la nourriture.
Comme les Tupperware, par exemple.
Voilà, ouais. Clairement, ou toutes les barquettes que l'on achète avec qu'on réchauffe au micro-ondes avec l'aliment à l'intérieur. Et il faut savoir que cette loi sur les cantines qui ne doivent plus utiliser de barquettes est passée depuis maintenant un an, et que bon nombre de cantines ne respectent pas, et notamment la ville du Mans. Sur la dernière projection, donc, qui sera le 28 mai, nous recevrons Karine Jacquemart de l'association Foodwatch, puisqu'on parlait de l'agroalimentaire tout à l'heure. C'est vraiment une ONG qui se bat pour une alimentation saine et durable. Et donc, elle sera présente à la librairie Thuar et ensuite au cinéma avec ce film où, en fait, la parole a été donnée à des enfants pour expliquer justement la santé environnementale. Et c'est une petite fille de grande section qui dit « Si on mange bien, on aura des bonnes santé.
» Je vous remercie, Fanny Blin de l'association Santé Environnementale Mancelle. Merci beaucoup.
Merci.
L'initiative locale avec Charles Duplaise sur Radio Alpa.